Prédication d'aujourd'hui, nous allons donc poursuivre et terminer cette petite série de l'été à partir de quelques passages de la première épître de l'apôtre Pierre. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 à 14. La version qui s'affiche derrière moi est légèrement différente que celle que je vais vous lire. Je vous lis la version de la Nouvelle Bible en français courant et celle qui s'affiche derrière, c'est celle de l'Ancienne Bible. En français courant. Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères et vos sœurs dans le monde entier endurent les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Je vous ai écrit cette courte lettre avec l'aide de Sylvain, que je considère comme un frère fidèle. Je l'ai fait pour vous encourager et pour attester que c'est à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. La communauté qui est ici, à Babylone, et que Dieu a choisie comme vous, vous adresse ses salutations, ainsi que Marc, mon enfant. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et des sœurs. Que la paix vous soit donnée à vous tous qui appartenez au Christ. Avant les traditionnelles formules de salutations, tout à la fin de l'épître, Pierre veut adresser à ses lecteurs une dernière exhortation. Et rappelons-nous aussi le contexte global de cette épître. Il s'agit de vivre pour les chrétiens qui recevaient cette lettre dans un contexte qui leur était hostile. Ils devaient faire face à une hostilité qui pouvait aller jusqu'à la persécution à cause de leur foi. Et Pierre dit à ses lecteurs qu'ils ne doivent pas s'étonner de cela. C'est le lot de tous les croyants, hier comme aujourd'hui, même si les sociétés changent et les formes d'opposition aussi. L'exhortation ultime de son épître reste donc vraie, rester attaché, rester fidèle au Seigneur, y compris dans des contextes difficiles. Et pour en souligner l'importance, il va affirmer avec force ce qu'il veut dire de résister quelque part aussi à l'hostilité en utilisant une image qui peut faire peur, celle du diable lui-même qui rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Mais avant cela, il donne deux impératifs. Soyez lucides, veillez. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Donc avant cette métaphore du lion, soyez lucide, veillez. Dans certaines traductions, vous avez peut-être sous vos yeux, soyez sobre. C'est l'ancienne version seconde. Le verbe désigne en effet, peut désigner en tout cas en effet, celui qui reste justement lucide et sobre parce qu'il n'a pas bu d'alcool, il est resté sobre. Je ne veux pas vous faire tout un développement là-dessus, on le sait bien, que c'est un des effets de l'alcool lorsqu'on en boit à l'excès. Nous ne sommes plus lucides et sobres. Veiller aussi, il ne s'agit pas seulement de ne pas dormir, lorsqu'on trouve ce verbe dans la Bible, veiller c'est un état d'esprit attentif, une veille active, celle des gardes qui restent par exemple éveillés la nuit pour s'assurer qu'aucun ennemi n'attaque. Il s'agit de monter la garde, de rester en alerte, de ne pas se laisser aller, se laisser porter par les modes et les courants. Et les deux impératifs l'un à côté de l'autre accentuent cette idée. Soyez lucides, veillez. Ça doit donc retenir notre attention. Il y a des dangers et il faut rester vigilant. Isabelle a parlé tout à l'heure de nos faiblesses. Eh bien, nos faiblesses peuvent être des véritables dangers. Si nous, peut-être nous ne sommes pas coupables d'être faibles, eh bien, ces faiblesses, par contre, peuvent nous conduire à la faute et à être coupables. Soyons vigilants. Le premier impératif, soyez lucides, nous met en garde contre l'insouciance, contre peut-être aussi une forme de suffisance, comme celui qui dirait par exemple, oui, bien sûr que je peux prendre le volant après avoir bu trop d'alcool. Il s'agit de faire un travail sur soi pour rester sur ses gardes. L'apôtre Paul dira aussi que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Le Seigneur Jésus lui-même a dit dans le jardin de Gethsémané que voilà, l'esprit était plein de bonne volonté, mais que la chair était faible. Et veiller, cet impératif de veiller nous met en garde peut-être contre une certaine forme de naïveté, celle qui nous empêcherait de voir les dangers autour de nous. Je pense ici à la fameuse parole de Jésus, justement, quand il envoie ses disciples, il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Il y a des hostilités, il y a des dangers. Il ne faudrait pour autant pas tomber dans la paranoïa et le complexe de persécution. Des fois, vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, mais je suis persécuté ». Simplement, ils se sont mal comportés et ils ont une réaction en retour. Ce n'est pas de la persécution. C'est une réaction, des fois, qui peut même être juste. Il faut être conscient qu'il y a des dangers, certains dangers même propres à la vie chrétienne. Les dangers, ce n'est pas que les autres, et des dangers qui nous guettent nous-mêmes. Soyons vigilants, soyons sobres, soyons lucides et veillons. Pierre nous met en garde contre une forme d'insouciance, de suffisance et contre la naïveté. Et ces écueils peuvent nous guetter si nous n'y prenons pas garde. Mais alors, quel est le danger ? Eh bien, Pierre nous en parle. Il dit qu'il y a un ennemi dont il faut se méfier. Et c'est là qu'il utilise une image, une métaphore assez saisissante. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. L'image est parlante, en effet, peut-être effrayante, je pense que c'était son intention à l'apôtre Pierre. Peu d'entre nous aimeraient effectivement croiser un lion affamé sur son chemin. Alors, vous allez me dire, peut-être vous n'avez pas peur de ça, parce qu'il y a peu de chances que ça arrive dans nos contrées. Mais, à l'époque où Pierre écrivait, il y avait des lions. Jusqu'en Palestine. Aujourd'hui, il n'y en a plus dans cette partie du monde. Mais la Bible nous parle de lions bien présents à cet endroit-là et dans de nombreux récits. Pierre nous dit, n'oubliez pas qu'il y a des dangers autour de vous. Peut-être ce sont des gens mal intentionnés, mais encore plus que des gens, il nous parle du diable lui-même. Et le diable, ça vient d'un mot en grec qui ressemble beaucoup, le diabolos, qui veut dire le diviseur, celui qui sépare, celui qui désunit. Il a bien une réalité justement spirituelle dans ce monde qui cherche à désunir, à détruire, à s'opposer à Dieu et à ceux qui lui appartiennent. C'est peut-être une réalité qui ne nous apparaît pas de façon très claire à chaque instant de notre vie. Elle est à quelques égards mystérieuse, mais il nous faut être prudents. Et ce serait en tout cas une grave erreur de nier l'existence du diable et de sa puissance. Une des stratégies d'ailleurs préférées du diable, c'est de passer incognito et de se faire oublier le plus souvent possible. Comment ça, il y a un ennemi qui rôde là et qui cherche à dévorer des personnes ? Alors Pierre le rappelle, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Ce verset vous fait peut-être penser à un autre verset du livre de la Genèse, qui parle cette fois-ci du péché qui est tapis à notre porte. C'est quasiment la même image. Comme un lion, le péché qui est tapis à notre porte, comme une bête sauvage qui peut se tapir dans les hautes herbes avant de bondir sur sa proie. Je ne vous fais pas de dessin parce que j'imagine que vous avez tous vu ce genre de reportage animalier où à un moment, on attend des fois très longtemps avant que justement il y ait l'attaque, souvent d'un félin caché dans les hautes herbes sur sa proie. Vous avez vu ça dans les reportages animaliers. Il y a différents types aussi, si on regarde ces reportages avec attention, différents types de rugissements. Souvent, le lion rugit pour signaler sa présence et ainsi avertir les concurrents qu'il domine sur un territoire donné. Ça, c'est le rugissement du roi des animaux. Dans certains textes, d'ailleurs, de la Bible, il est dit que Dieu rugit. Et je pense que quand Dieu rugit, c'est de cette façon. Le prophète Amos, par exemple, dit que Dieu rugit. Car il est le roi et le juge de la terre, il est le souverain. Un des titres également donné à Jésus, peu souvent en fait, il est donné une fois à Jésus dans le livre de l'Apocalypse, mais très souvent repris par contre dans nos cantiques, Jésus comme le lion de Juda. Alors ne pensez pas que c'était Juda le disciple, hein. Le disciple de Jésus n'avait pas de lion. Mais c'est Juda, la tribu de Juda. Non, ben je le dis parce que, voilà, je sais que une fois j'ai entendu ça, mais je ne savais pas que Juda avait un lion. Rien à voir avec le disciple, c'est la tribu de Juda. Et cela, ce titre signifie que Jésus, le lion de Juda, a l'autorité pour ouvrir les sceaux du livre qui est scellé de sept sceaux dans l'Apocalypse. Donc, expression utilisée une fois dans ce livre, mais qui vient d'un texte de l'Ancien Testament, qui annonce la venue de celui qui aura toute autorité et qui sera issu de la tribu de Juda, à la fin du livre de la Genèse. Alors, dans notre texte, l'image du lion qui rugit est aussi utilisée, mais cette fois-ci, l'image ne désigne pas Dieu. Peut-être que les premiers lecteurs avaient plus l'habitude de cette image pour parler de Dieu que du diable. Ou alors Jésus-Christ. Eh bien, ce dernier, nous savons, s'il peut rugir, ce n'est pas en tant que Seigneur, ce n'est pas en tant que juge, il n'a pas la victoire, il est au contraire vaincu. Il n'est pas Seigneur, mais il cherche alors à dévorer. Et lorsque le lion a faim et qu'il veut dévorer la proie qui a été chassée, très souvent par des lionnes, on l'entend aussi rugir pour qu'aucun animal ne pense être lui aussi invité au festin. Et j'ouvre ici du coup une parenthèse, petite parenthèse très courte, sur l'interprétation justement des images dans le texte biblique. C'est pas parce que dans un texte, une image désigne quelque chose, par exemple le lion qui désigne Dieu, ou même Jésus-Christ dans certains textes, que cette même image va toujours désigner Dieu ou Jésus-Christ dans tous les textes de la Bible. La même image peut évoquer une réalité négative et positive dans un autre passage. Exemple, le lion dans ce texte, mais il y a d'autres exemples. Par exemple, le levain qui désigne le péché dans certains textes ou qui désigne la forme de légalisme des pharisiens. Et puis que Jésus utilise aussi cette image du levain pour parler du royaume de Dieu dans une parabole. Voyez un peu la subtilité de l'interprétation aussi des images dans la Bible. Mais je vais revenir au texte maintenant, parce que si Pierre, justement, convoque ici la figure du diable, ce n'est pas pour se dédouaner de ses responsabilités ou pour spiritualiser à l'excès les problèmes qu'on peut rencontrer. Il ne faudrait pas oublier que le diable, quelque part, ça peut être nous, vous ou moi, lorsque nous accusons ou que nous divisons. Celui qui divise fait l'œuvre du diable, le diabolos, le diviseur, qui a un autre nom aussi, Satan, l'accusateur. Celui qui accuse fait aussi l'œuvre du diable. Jésus lui-même a dit au même Pierre qui écrit ce texte que nous avons lu, il lui dit « Arrière de moi, Satan !» en discernant derrière les propos de Pierre une tentation du diable lui-même. Lorsque le disciple Pierre voulait, peut-être par bienveillance, je n'en sais pas, détourner Jésus de sa mission qui le conduirait à la croix. Voyez que derrière même des paroles, peut-être même bien intentionnées, il peut se cacher, parce que c'est sa technique préférer au diable se camoufler dans les hautes herbes pour qu'on ne le voie pas alors qu'il est bien là. Et il commence à rôder et veut nous détourner aussi de notre fidélité à Jésus-Christ. Alors, cela dit, une fois que cet ennemi est identifié, la métaphore se poursuit en évoquant aussi l'attitude à tenir face au diable. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Et le verbe qui est utilisé ici, qui est traduit par « résister », littéralement pourrait se traduire « se tenir devant », tout simplement. Et avec l'idée de se tenir devant fermement, puisqu'il y a un adjectif ensuite qui renforce ça, et c'est souvent traduit, donc « résistez-lui en demeurant ferme ». Tenez-vous devant lui fermement, solidement. C'est l'image de quelqu'un qui reste debout devant un lion et qui ne bouge pas. Voyez, résistez-lui fermement. Face à l'ennemi qui cherche à nous faire du mal, nous pouvons dire par la foi, justement, « Tu ne passeras pas », pour ceux qui ont la ref du Seigneur des Anneaux. « Je me tiens fermement devant toi. » C'est l'exhortation de Pierre, hein. « Tenez-vous devant lui ferme dans la foi. » Alors, il ne s'agit pas de vouloir attaquer ce lion, ni de chercher à maîtriser ce lion. Vous voyez, le verbe qui est utilisé est assez précis. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques, dans son épître, utilise exactement le même verbe quand il dit « résister au diable et il fuira loin de vous ». Il ne s'agit pas de l'attaquer ou de chercher à le maîtriser, mais simplement se tenir devant lui fermement. Ce n'est pas notre foi en elle-même qui compte, mais c'est celui en qui nous avons placé notre foi. C'est lui qui nous rend ferme et solide et qui nous permet de tenir debout devant les attaques du diable. Et même si un lion cherche à nous dévorer, alors il va se casser les dents parce qu'on va rester là, fermement devant lui. Vous connaissez peut-être cette image. J'ai ici une allumette. Alors on est un peu comme des allumettes. Et une allumette, quand vous exercez une pression sur elle, ben au bout d'un moment, elle craque. Si vous prenez maintenant deux allumettes, vous voyez, bon, ça c'est peut-être l'image, on va dire, de la communion fraternelle, c'est déjà plus dur, mais on peut quand même les casser. Et maintenant, je ne sais pas si vous voyez là, parce que c'est un peu petit, j'ai simplement collé un clou sur une allumette, un petit clou, un tout petit clou. Et bien maintenant, vous pouvez essayer, si vous essayez de casser l'allumette, vous n'y arrivez pas. Parce que vous voyez, là, c'est le Seigneur qui nous rend fort et qui rend notre foi forte. Se tient à nos côtés et ainsi nous pouvons tenir fermement en face du diable et lui résister par la foi. On entend dire parfois que la foi, c'est pour les faibles, que c'est une béquille pour ceux qui n'arrivent pas à affronter les difficultés seuls. Alors, ils ont bien besoin d'une petite aide, d'une béquille, d'une espérance. Et en fait, je crois que c'est le contraire. La foi n'est pas une béquille pour les faibles, mais la foi, au contraire, nous rend plus forts. Car la foi, c'est être uni à celui qui est tout-puissant. Et ainsi, nous sommes forts et nous tenons. Le Saint-Esprit en nous permet de rester debout et ferme. La foi, en réalité, nous donne une grande force face à l'adversité, dans les épreuves et les difficultés. Parce qu'elle permet de savoir et même de voir que nous ne sommes jamais seuls. Le Christ, vivant, ressuscité d'entre les morts, est là avec nous. Il nous garde par sa toute-puissance tous les jours, selon sa promesse. Et cela a été exprimé aussi dans une prière ce matin. Puis il y a les frères et sœurs dans la foi, qui sont à nos côtés dans la même foi que nous, qui prient pour nous, qui prient avec nous. La foi nous rend plus forts, parce que notre force ne repose pas sur nos propres capacités, notre sagesse ou notre expérience, mais elle repose sur celui qui nous appelle et nous accompagne. Et lui, il a déjà vaincu. Il a vaincu ce diable, cette bête. Il a terrassé le dragon par sa mort et sa résurrection. La vie, quelquefois, justement, ressemble quelquefois à un combat. Une lutte parfois douloureuse. Et c'est vrai de la vie chrétienne aussi, le croyant qui doit faire face à des adversaires bien spécifiques. Rester lucide, il doit rester lucide, vigilant, tenir ferme dans la foi. Mais l'issue de ce combat, et ça c'est une certitude, c'est la victoire. Parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire par sa mort et sa résurrection. C'est d'ailleurs avec une promesse que Pierre termine son propos avant les salutations finales, et c'est comme cela que je vais aussi finir l'exhortation de ce matin. Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union, rappelez-vous le clou collé à l'allumette, dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Je regarde si je vois Isabelle et je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu, non ? Alors, on va chanter ce petit chœur que je pense qu'on connaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons. Et vivons et disons sa victoire, Christ est roi. Voilà. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire, Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi.